France Culture.
Je suis très influencé par la tradition occidentale, des mémoires, des autobiographies dont j'ai lu beaucoup. Mm-hmm. Mais de faire quelque chose de très original, dans le sens où le sujet est assez différent. Mais de faire le portrait, si vous voulez, de trois mondes qui sont disparus, qui étaient les mondes de mon enfance. Il y avait là aussi une certaine cohérence, pas exactement chronologique, mais une cohérence de l'expérience même.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a des vies branchées sur le battement de cœur du monde. C'est comme ça, question de géographie, hasard de naissance, constitution d'un tempérament. C'est le cas de celle de Tariq Ali qui débute en 1943 à Lahore, alors située en Inde britannique, aujourd'hui Pakistan. Elle n'aura de cesse cette vie de se déployer là où l'on milite pour la justice et pour la paix. Dans ses mémoires, tout juste éditées et traduites en français, il déroule, parfois au détail près, les années, les rencontres, Édouard Saïd, qu'on entendait à l'instant, Indira Gandhi, Régis Debray, Malcolm X, pour ne citer que certaines des plus fameuses. Les combats, les espoirs, les désillusions. Les 500 pages s'achèvent sur le souvenir d'un grand intellectuel palestinien, révolutionnaire, mourant au milieu des années 1970, et une ode à la discussion où les désaccords fertiles font craquer tous nos planchers. Tariq Ali est l'invité de votre book club, et on terminera avec Raphaël Bott en parlant littérature, jeunesse. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le book club. Bonjour Tariq Ali.
Bonjour.
On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le titre de vos mémoires, édités et traduits par Diane Meur pour Sabine Vespizer, éditeur. Bienvenue dans le Book Club de France Culture, on est ravis de vous recevoir. Vous serez ce soir à la librairie de Paris en dialogue avec Edoui Plenel et le 9 avril à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche, là aussi pour une rencontre autour de vos mémoires. Salut Marguerite Capel.
Bonjour.
C'est vous qui allez interpréter les propos de Tariq Ali vers le français, merci pour ça. Vos mémoires sont divisées en 5 livres, Tariq Ali, et le premier est une sorte de mémoire familiale. Vous revenez sur vos parents, sur les ascendances aussi de vos parents. Avec quels souvenirs, avec quels documents avez-vous travaillé cette première partie ?
Comme vous le savez, si vous avez lu le livre, j'ai décidé d'écrire sur ma famille parce qu'on m'avait souvent demandé, d'autres membres de la famille, des neveux, des nièces m'avaient souvent demandé ça. Ils me disaient, personne d'autre ne va le faire, donc s'il te plaît, vas-y, raconte leur histoire. C'est ce que j'ai fait.
Il y
évidemment, les vieux albums qui traînaient dans les maisons, et puis les souvenirs très clairs que je conservais de ma mère. Ma mère avait 18 ans à ma naissance. Alors, on avait une relation d'amitié quand j'ai grandi, quand j'étais enfant. On parlait de tout, de tous les sujets. Elle m'a raconté énormément d'histoires familiales que j'ai conservées en mémoire.
Et donc, la famille était une landed family.
Donc c'était une famille de propriétaires terriens dans le nord-ouest de l'Inde, une famille ancienne, qui reste un mystère à mes yeux. Personne n'a réussi à résoudre une énigme qui est comment ils sont arrivés là. La version la plus populaire, c'est qu'ils sont arrivés avec un roi afghan qui était venu piller l'Inde. Et il faisait partie de sa tribu et il ne serait pas rentré. Il serait resté dans cette région magnifique du Pakistan,
à
quelques dizaines de kilomètres d'Islamabad au nord. C'est là que se trouve la propriété familiale depuis le XIIe siècle. Donc le roi moghol qui dirigeait l'Inde et qui aimait aussi beaucoup cette région, il y avait fait bâtir un petit palais. Il n'est pas si grand que ça. Il est au bord d'un lac naturel, bord de l'eau. Et à la fin de cet empire moghol, ce petit palais nous est revenu. Et donc, quand on était enfant, on jouait là-bas. On imaginait les rois. Il y avait un roi qui aimaient
faire
avaler des perles à détruites pour voir combien de temps elles allaient vivre. Donc on se disait toujours qu'il y avait une sorte de trésor au fond de l'eau. C'était vraiment une enfance tout à fait idyllique de ce point de vue.
And then during the British times,
et puis, pendant le règne britannique, la période du mandat britannique, la famille s'est divisée. Une grande partie de la famille a décidé de soutenir ce mandat britannique. Ils ont prospéré grâce à ça. Mon grand-père, lui, était premier ministre du Punjab pendant la Première Guerre mondiale. Un ami très proche de Churchill.
Churchill,
les Anglais, les poussaient à faire sécession, à ce que le Punjab devienne un petit royaume à part entière. Mais lui, il était tout à fait opposé à cette idée. Il ne voulait pas de cette séparation. Il fallait que les gens continuent à vivre ensemble, selon lui.
Donc
voilà l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi.
Ce
qui est intéressant et que je raconte en détail dans le livre,
c'est
que mes parents sont tombés amoureux alors qu'ils étaient de la même famille. Le père de ma mère était donc le premier ministre et le père de mon père, il faisait partie de son cabinet, mais lui, il était communiste. Il se battait aux côtés du Parti communiste et d'autres groupes nationalistes pour, justement, chasser les Britanniques. Donc, il y avait une tension entre eux. Donc, quand mes parents ont annoncé vouloir se marier, mon grand-père a dit non, ma fille n'épousera jamais un communiste.
So finally, after elopements and God knows
et donc après qu'ils se soient échappés tous les deux et tout un tas de choses qui sont racontées dans le livre, ils ont décidé d'obéir à la condition posée par mon grand-père. Il fallait que mon père s'enrôle dans l'armée et aille combattre en Europe contre le fascisme et contre Hitler.
My father didn't know what to do.
Mon père ne savait pas quoi faire parce que l'URSS n'était pas encore entré en guerre.
They finally did, and the minute
mais ils ont fini par le faire.
He joined the
et dès que l'URSS est entré en guerre, il a rejoint l'armée pour aller se battre. Et ça solutionner la question du mariage.
Ça veut dire que vous placez aussi d'emblée votre généalogie et votre histoire, Tariq Ali, sous le signe de la contestation, du combat, une sorte d'aridité comme ça, de se battre pour obtenir ce que l'on veut dans l'existence. Et toujours dans ce roman familial, le premier livre de vos mémoires, vous racontez l'importance qu'a eu la bibliothèque de votre père et la transmission active qu'il a fait de la littérature, lui qui vous faisait lire Shakespeare et autres. Et ici, au Book Club de France Culture, on commence toujours par faire le portrait de nos invités en tant que lecteurs, par essayer de dérouler leur vie de lecteur. Or, dans vos mémoires, bien sûr, il est question de combat politique, il est question de même d'une manière de regarder le monde en se déseuropéano-centrant. Mais il y a beaucoup de place qui est faite à la littérature. Tariq Ali, est-ce que vous voulez bien nous parler de cette bibliothèque paternelle et du rôle que vous lui donnez dans la formation de votre esprit et de votre vie en entier ?
My father had an amazing library.
Mon père avait une bibliothèque incroyable.
And there were books from every culture there.
Il y avait des livres de toutes les cultures littéraires. Il y avait des livres en arabe, en
all the great poets of our subcontinent,
tous les grands poètes étaient là.
And I didn't learn Arabic, I have to confess. My father
je n'ai pas appris l'arabe, je dois d'ailleurs avouer que mon père était très en colère. Il me disait, peu importe ce que tu en penses, peu importe ce que tu crois ou pas sur l'existence ou la non-existence de Dieu, il faut que tu saches ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il dit. Il faut que tu saches qu'il y a dedans avant d'être en désaccord. Il était comme ça. Il avait un esprit très juste. Mais la personne qui m'enseignait le Coran en arabe ne comprenait pas bien l'arabe lui-même. Beaucoup de gens qui enseignaient le Coran ne parlaient pas du tout l'arabe couramment en réalité. Ils le savaient la plupart du temps parce qu'ils disaient, et moi je posais beaucoup de questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Alors j'ai dit à ma mère, ça ne sert à rien d'apprendre tout ça si mon professeur ne comprend pas, il ne peut pas répondre à mes questions. Et elle s'est débarrassée de lui.
Et que vous conseillez de lire votre père qui vous a tant marqué, Tariq Ali, et qui fait que vous passez plusieurs pages, plusieurs paragraphes à détailler ces lectures ?
Il me conseillait de lire des choses très diverses. Il pensait qu'il fallait que je connaisse le Coran parce que je grandissais dans cette région du monde et que c'était la religion de la majorité des Pakistanais. Et je l'ai lu plus tard, bien sûr, mais pas à l'époque. Les autres livres qui se trouvaient à ma disposition, c'était des livres anciens traduits en anglais. Il y avait les classiques chinois, les classiques russes.
Tolstoy.
Je pense que j'ai lu Tolstoy, Dostoïevski, je devais être adolescent.
Then I read all the classics.
Et puis j'ai lu tous les grands classiques
English literature,
de la littérature anglaise.
Which I enjoyed. I enjoyed all of
them. Ça m'a beaucoup plu.
And then, because we were growing up and being educated in a British colonial,
parce qu'on avait une éducation dans un système colonial ou post-colonial encore très dominé par les Britanniques, comme les enfants algériens à l'époque en Algérie apprenaient le français. C'était la même chose pour nous, la même façon de voir les choses.
So I enjoyed that. I have to say most of these.
Ça m'a plu cette littérature-là, la littérature anglaise. La plupart de ces livres m'ont plu et j'adorais lire.
Great deal.
Je lisais énormément.
And I remember from the French books.
Et je me souviens aussi des livres de la littérature française. Il y avait tout. Il n'y avait pas Proust, car je crois qu'il n'était pas traduit. Mais il y avait Balzac. En traduction. Mais ce qui me plaisait le plus dans la littérature française, c'était Dumas.
So, you know, as a young person,
parce
que
quand on est jeune, c'est le côté aventure, bien sûr, qui était très excitant. Mais j'ai aussi appris beaucoup sur l'histoire française grâce à ces romans-là. On ne nous apprenait pas du tout l'histoire des autres pays européens dans nos écoles. C'était uniquement l'histoire de la Grande-Bretagne. Donc, tout ce que j'ai pu apprendre jeune sur l'histoire française est venue des romans d'Alexandre Dumas, de Balzac, et un roman qui m'a vraiment marqué et que j'adorais, c'était Le Comte de Monte Cristo, qui m'est resté vraiment en mémoire, il m'a marqué. Il y avait une fascination assez bizarre pour ce livre. J'ai dû le lire au moins deux ou trois fois tout au long de ma vie. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et plus tard, j'ai lu qu'il avait lui-même lu l'histoire d'un évadé d'une prison parisienne dans un journal et que c'était Alexandre Dumas qui avait transformé ce fait d'actualité pour en faire un roman tout à fait excitant.
Mais vous parlez de votre plaisir de lecture, Tariq Ali, mais vous dites aussi, à un moment donné dans vos mémoires, que la fréquentation de la bibliothèque paternelle vous a presque plus appris qu'ensuite les universités anglaises, et à vous entendre, on a l'impression que c'est aussi une bibliothèque qui vous a d'emblée branché sur le monde. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans les 500 pages de vos mémoires, c'est que vous déplacez le centre tout le temps. C'est parfois en Amérique latine, parfois au Vietnam, parfois en Europe, parfois en Angleterre, parfois en Inde, au Pakistan. Il y a une forme de vie où vous bougez tout le temps, où votre vie, elle est mondiale d'une certaine manière. Est-ce que ça prend sa source dans l'ouverture d'esprit qu'aurait éventuellement, je ne sais pas, été déjà là dans la bibliothèque?
The school I went to was awful.
L'école que je fréquentais était très mauvaise. Il y avait quelques bons profs. Mais ce n'était pas un endroit où on vous éduquait, on vous faisait passer des examens, c'est tout. L'essentiel de mon éducation est venu effectivement de la bibliothèque de mon père.
Mais après, vous allez à l'université quand même.
J'essaie de me souvenir du premier livre. Mais ça fait très longtemps.
Ago now, but I think it was yes. Now I remember. It was some school novels, novels for teenagers.
Je pense que c'était des romans pour adolescents écrits par un auteur anglais
qu'on
lisait à l'école. Richmal Crompton. Et le personnage était un garçon très polisson qui s'appelait William.
Said, William, this, William that,
et donc tout le roman
William
racontait William fait ci, William fait ça.
And these I read when I think I was
je pense que j'ai dû les lire
and
8 ou 9
read them just to laugh and
ce sont des livres qu'on lisait pour s'amuser
jokes.
Simplement
William was playing on,
pour voir un petit peu toutes les farces que faisait William à sa famille
mimic them till my mother
et pour essayer de les imiter à tel point que ma mère finit par trouver que ces livres n'étaient pas très intelligents et qui me donnaient des drôles d'idées, des idées idiotes. Donc finalement, on m'a retiré cette série, mais bon, je les avais déjà lues. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que l'Inde, le Pakistan, pour la plupart des gens, tout reposait sur la tradition orale. La littérature et l'alphabétisation, c'est venu assez tard. Quand les Anglais sont partis, 80% de la population était analphabète. Au bout de 2 siècles de colonisation anglaise, ils n'avaient pas appris à lire. Moi, je venais d'une famille privilégiée. Donc, je savais lire, mais ce que j'appréciais beaucoup, c'était aller à des lectures de poésie.
On va y venir parce que vous évoquez à plusieurs reprises la place, justement, de la poésie dans votre parcours, mais aussi dans les rencontres que vous faites, politiques ou amicales. On va continuer d'évoquer vos mémoires juste après ce titre de Mavis Staples, membre des Staples Sisters, chanteuse américaine qui, en 2017, sortait cette chanson dans la lignée toute droite des protest songs, invitant à l'énergie inépuisable du combat, notamment pour les droits civiques débutés pour elle 60 ans auparavant. Ni le temps de pleurer, chante-t-elle, ni le temps pour les larmes, on a du travail.
No time for crying. No time for tears, got no time for crying, no time for tears, we've got work to do, we've got work to do, we've got work to do, we've got work to do.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le titre de vos mémoires, Tariq Ali, édité et traduit en français par Diane Meur pour Sabine Vespizard éditeur. Elles auraient pu être sous-titrées aussi. On ne peut pas venir en aide à tout le monde sans que cela n'amoindrisse la ferveur de votre inlassable combat pour la justice, la paix et l'égalité. Plusieurs scènes, au Vietnam par exemple, guerre et moment central de votre parcours, montrent votre frustration de ne pouvoir porter secours ou livrer bataille sur tous les terrains où il le faudrait. les fondements de votre conscience politique, le destin de celle-ci, les causes qu'elle vous fit embrasser, on trouve tout ça dans ces mémoires où l'autobiographie est intimement mêlée à l'analyse des mondes que vous avez traversés. Et où l'art, en fait, est partout. On a parlé de la place de la littérature, la bibliothèque de votre père à l'instant, mais aussi des chansons de John Lennon ou encore le théâtre, Peter Brook. Et le fait d'attendre de la part des arts quelque chose de nouveau. On va entendre de nouveau la voix de quelqu'un que vous évoquez, à qui vous consacrez presque un chapitre, Tariq Ali. C'est Edouard Saïd, ici en 2002, parlant de l'écriture, justement, des mémoires et des enjeux qu'il y a à écrire sa vie.
Je suis très influencé par la tradition occidentale des mémoires, des autobiographies dont j'ai lu beaucoup. Mm-hmm. Mais de faire quelque chose de très original dans le sens où le sujet est assez différent. Ce n'est pas une enfance tout à fait anglaise ou française ou même arabe. Mais de faire le portrait, si vous voulez, de trois mondes qui sont disparus, qui étaient les mondes de mon enfance.
C'était
la Palestine avant Israël, l'Égypte avant la révolution de 52 et le Liban avant la guerre civile. Mm-hmm. Des mondes disparus et c'était un moment assez difficile pour moi parce que ma mère est morte, elle était la dernière connexion, si vous voulez, avec ces mondes. Elle est morte en 90. Et j'ai découvert en 91 que j'avais une leucémie assez grave. Alors pendant les périodes de thérapie et j'étais obligé à rester à la maison. C'était pour moi une espèce de, pas exactement devoir, mais un travail quotidien qui m'a beaucoup aidé à continuer. Il y avait là aussi une certaine cohérence, pas exactement chronologique, mais une cohérence de l'expérience même. Et j'ai essayé de représenter ça d'une manière non mécanique. C'est pas seulement chronologiquement, mais bâti sur les thèmes et les idées qui reviennent et les relations personnelles, etc.
C'est la voix d'Edouard Saïd, donc universitaire, théoricien littéraire, écrivain, critique palestino-américain, né en 1935 et mort à New York le 25 septembre 2003, ici au micro de Pascal Casanova. Il y a un chapitre de vos mémoires, Tariq Ali, qui s'appelle « Souvenir d'Edouard Saïd » et qui commence justement avec une sorte de blague entre amis qui ne parviennent pas à se souvenir de la date de leur première rencontre. Edouard Saïd dit que quand on écrit sa vie, il s'agit de ressusciter pour lui des mondes disparus, mais aussi de trouver une forme de cohérence à l'expérience même de la vie. Est-ce que ce sont deux choses qui vous ont animé dans l'écriture de vos propres souvenirs, Tariq Ali ?
On était très différents, Edouard et moi. On était très proches. Mais il venait d'un milieu totalement différent du mien. Et très tôt, très jeune, il était très conscient du fait que sa famille, une famille palestinienne, avait été expulsée de Jérusalem. Moi, je n'avais pas ce type d'expérience. Je suis né à Lahore. J'y ai passé les plus belles années de ma vie. Lahore, qui est ensuite devenue une ville pakistanaise, et sur ce domaine familial. Mais ce qu'on partageait, ce qu'on avait en commun, c'était l'amour de la littérature, de la lecture. Et lui, il en a fait quelque chose d'incroyable parce qu'il était obsédé, dans le sens positif du terme, par les classiques littéraires occidentaux. Et il a écrit là-dessus. Il est devenu professeur à l'Université Columbia
in New York.
À New York.
Et
je me souviens qu'une fois, pour une rencontre en public, lors d'une rencontre en public, je lui avais dit
«
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, 1917, année 1917 ?» Il a répondu « Je sais ce que ça veut dire pour toi. » Je lui ai dit « Bon, c'est pas un secret, évidemment, ce que ça veut dire pour moi, c'est la révolution russe. » Il a dit pour moi, ça veut dire la déclaration Balfour, la décision prise par l'Empire britannique de donner aux Juifs, un pays dans notre région du monde, sans demander la permission de qui que ce soit. C'était une décision britannique. Il dit, voilà ce que signifie pour moi l'année 1917, ce qu'elle représente. Et en même temps, il m'a dit qu'avant la guerre de six jours, en 1967, il n'était pas si politisé que ça. Il s'intéressait plus à l'enseignement, c'était d'ailleurs un excellent enseignant. Et c'est cette guerre qui l'a vraiment politisé et qui l'a éduqué, qui lui a fait réfléchir beaucoup plus la question palestinienne. Après, il n'a plus jamais arrêté d'y réfléchir.
Et justement, il y a un chapitre de vos mémoires, Tariq Ali, qui s'appelle « L'éveil politique ». Il semble que dans ces mémoires, vous passiez beaucoup de temps et d'énergie à réfléchir à ce que c'est que de s'engager politiquement dans le monde, ce que vous avez toujours fait. Alors si c'est comme ça que ça s'est passé pour Edouard Saïd, qu'est-ce qui pourrait être chez vous un profond élément déclencheur ?
J'ai écrit tout un chapitre sur Edward parce que nous étions devenus proches, parce que c'est lui qui m'a fait comprendre la question palestinienne et ce qui s'y passait. Il a fait partie des personnes qui m'ont ouvert les yeux sur ce qui s'y passait. Et puis quand j'ai visité les camps de réfugiés après la guerre de six jours, Bertrand Russell, le philosophe anglais, nous avait envoyés là-bas comme observateurs.
Et
ça m'a aussi énormément appris. Et beaucoup d'intellectuels palestiniens aussi, comme Rachid Khalidi, son oncle Walid Khalidi, qui est mort aussi récemment. Il m'a fait asseoir dans son magnifique jardin de Beyrouth, dont je me demandais d'ailleurs tout récemment s'il avait été détruit par les bombardements. Dans ce beau jardin, il m'a raconté l'histoire de leur point de vue. C'est quelque chose qui m'a effectivement ouvert la conscience politique et m'a fait beaucoup réfléchir à ce qui s'était passé. L'autre groupe de personnes qui a contribué à ma formation politique étaient tous d'origine juive. C'était des intellectuels de gauche, radicaux, des juifs qui n'étaient pas sionistes. La plupart d'entre eux ne s'étaient pas opposés à la création d'Israël. Ils espéraient que ça puisse fonctionner avec les États arabes. Mais ensuite, c'est passé ce qui s'est passé. Et ces conversations étaient très naturelles avec Edouard. On discutait, on débattait des solutions possibles. Et Edouard avait, de son vivant, en particulier ces dernières années, un grand attachement à un État unique avec des juifs, des non-juifs, des musulmans, des non-musulmans qui puissent vivre ensemble. C'est ça qu'il voulait. Avec Daniel Barenboim, l'orchestre, le Divan Orchestra, ils ont même créé ce groupe de musiciens, la moitié de jeunes musiciens juifs, d'autres de jeunes palestiniens qui apprenaient la musique ensemble. Il a été attaqué pour ça, mais il a continué. Il disait, notre avenir, il est ensemble. Et si vous ne vous en rappelez pas, ça se terminera très mal pour tout le monde.
Et la musique, justement, revient. Un autre épisode très important de vos mémoires, Tariq Ali, c'est la guerre au Vietnam et votre combat inlassable pour la paix. On va écouter cette archive. On y entend, John Lennon pratiquer une sorte d'affiche de publicité pour faire la publicité pour la paix, disait-il.
Les vœux de Noël les plus originaux, incontestablement ceux de l'excentrique Beatle John Lennon et de son épouse Yoko. À Londres, comme à Amsterdam, à New York, sur les murs de Times Square, et dans d'autres grandes villes, comme Paris sur les Champs-Élysées, des affiches sur lesquelles on peut lire « La guerre est finie, si vous le voulez ». Nous l'organisons sous forme de campagne publicitaire. Lorsque les gens veulent vendre du Coca-Cola ou d'autres marchandises, ils le font grâce à la publicité. Nous faisons de la publicité pour la paix afin d'en faire un produit rentable. Nous n'avons pas beaucoup de projets en cours si ce n'est un festival européen de la paix pour l'an prochain, et je dois également monter un festival américain de la paix à Toronto, au Canada. Ce sont là nos projets immédiats.
Si vous voulez.
La voix du musicien John Lennon le 23 décembre 1969 menant une grande campagne de publicité pour la paix. Quelle place a occupé la guerre au Vietnam et le combat pour la paix dans votre parcours, Tariq Ali?
John Lennon, the first time we met,
la première fois qu'on s'est rencontré avec John Lennon, c'était en 1970.
And I said to him, the first question I asked him,
la première question que je lui ai posée,
in private, I said, why didn't the Beatles come on
tous les deux,
the anti-Vietnam War demonstrations?
C'est de lui demander
Mick Jagger did,
pourquoi les Beatles n'étaient pas présents aux manifestations anti-guerre du Vietnam. Beaucoup de musiciens étaient venus, comme Mick Jagger, d'autres encore.
Mais
toi aussi, enfin, si vous étiez venu, ça aurait eu un impact énorme. Il a répondu,
manager,
on le sait. Mais notre Brian manager, Brian Epstein,
no relation, by the way.
Aucun lien, d'ailleurs.
Brian Epstein said, if you guys go on these anti-war demonstrations,
Brian Epstein a dit, si vous allez dans ces manifestations pacifistes, vous ne pourrez plus mettre un pied aux États-Unis. Et je ne peux pas vous laisser faire ça parce que c'est là qu'on gagne beaucoup d'argent. Lennon m'a dit qu'il avait vraiment honte, en réalité, qu'ils aient accepté.
Et
suivi ce conseil. Mais quand on a terminé l'interview que je faisais pour La Taupe Rouge, The Red Mole, le journal des années 60 où je travaillais, je l'ai vu évoluer au fur et à mesure de notre conversation. J'étais avec Robert Blackman, on l'interviewait, et en fait, il nous a retourné aussi des questions. Et le lendemain matin, il m'a appelé. Et il m'a dit, je suis vraiment inspiré par l'entretien qu'on a mené ensemble, notre interview. J'ai dit, mais c'est ton interview. Il a dit, non, c'est la nôtre. Et ça m'a inspiré à ce tel point que j'ai écrit une chanson. Est-ce que tu veux l'écouter? J'ai dit oui. Et donc, dans mon petit bureau du nord de Londres, Lennon est venu chanter Power to the People.
He said, "What do you think?" I said, "Great. Are you putting a single out?" He said,
"Yeah." Il m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, est-ce que ça sort en single? Oui. Il est sorti très vite. Et à la manifestation suivante, on chantait cette chanson et il était là.
Il y a plusieurs modalités d'action de votre combat politique qui sont racontées, Tariq Ali, dans vos mémoires. Il y a le combat de rue, ici vous parlez de votre conversation avec les artistes, on vous voit parfois dans des comités internationaux, dans des conversations en très haut lieu, décisionnaires. À quelle action vous croyez le plus au moment de peut-être faire le bilan de cette action politique ?
Je ne sais pas, voilà la réponse la plus sincère. On fait ce qu'on pense devoir faire. L'époque était très différente de celle dans laquelle nous vivons maintenant. On le sait tous. Les grandes manifestations qui ont lieu partout dans le monde contre la guerre du Vietnam. Et puis ensuite, l'explosion en France de mai 68, 69, l'Italie. Ça a été en 70, les grandes grèves de mineurs en Grande-Bretagne en 71, en 72. Il y a eu un mouvement massif aussi en Allemagne, qui d'ailleurs est devenu en partie violent. Et je me souviens à Berlin en 68 ou peut-être 69 d'avoir débattu avec Ulrika Meinhof qui avait vraiment monté un groupe terroriste. En disant justement, c'est pas le bon moyen. Il y aura plus de répression si vous continuez. Ce qu'elle m'a répondu, c'est ce que les gens comme toi ne comprenaient pas, c'est que c'est très difficile pour nous de manger à la table d'un oncle, d'un frère qui a pu être un SS, qui a pu travailler dans les camps, qui a pu perpétrer toutes sortes d'atrocités et qui fait comme si aujourd'hui tout était normal. Comme si ça n'était jamais arrivé. C'est insupportable. Et donc moi j'ai répondu oui, mais Vous ne les tuez pas et c'est une bonne chose.
We feel what the Americans are doing in Vietnam.
Elle m'a dit, oui, mais notre sentiment, c'est que ce qui se passe, ce que les Américains font au Vietnam, c'est très proche de ce qu'ont fait les Allemands en Russie ou dans d'autres régions européennes.
Why should we tolerate that anymore?
Pourquoi faudrait-il le tolérer?
And these people, she said, are relations who fought with Hitler,
et ces proches, ces membres de la famille qui ont participé au Troisième Reich aux côtés d'Hitler, eux, ils ne voient pas le lien, ils ne voient pas le rapport.
But you know, this is.
Et donc on a débattu, mais.
That was after the big Vietnam demonstration.
C'était après les plus grandes manifestations qui ont eu lieu à Berlin contre la guerre au Vietnam et la conférence de 68, de février 68 sur le Vietnam.
Rudi Dutschke, the German.
Et le dirigeant du mouvement étudiant allemand, Rudi Dutschke, a pris la parole et a dit
« J'ai trois questions
à poser à Jürgen Habermas, le philosophe qui venait juste de mourir, qui vient de mourir. »
He had to go somewhere to a conference, but Dutschke's questions were so provocative.
Évidemment, ces questions étaient extrêmement provocantes. Et donc Habermas, qui allait ailleurs, est revenu à la conférence, a demandé le micro et a donné ses trois réponses aux trois questions. C'était ça le climat de l'époque. Les gens étaient prêts à débattre, discuter, et on pouvait avoir des désaccords très forts, mais néanmoins débattre.
Et ça, je pense, en certains moments, surtout maintenant, when I think back on it,
et
was
quand j'y repense, en particulier du point de vue d'aujourd'hui, je crois que c'est ça qui a le plus compté dans les années 60-70. On n'avait pas peur du débat. On n'avait pas peur d'affronter les politiques conservateurs et eux n'avaient pas peur non plus de nous répondre. Et ce débat, il était porté aussi sur les ondes, par la BBC, par la presse. Il n'était pas question de cancel qui que ce soit. Soit il n'était pas, ça ne faisait pas partie de la façon de réfléchir des gens. Soit on leur donnait de l'espace pour s'exprimer, soit on les recevait en débat, les personnes avec qui on n'était pas d'accord.
Et
je me suis souvenu de ça quand j'ai appris la mort de Habermas il y a quelques semaines.
Et
j'ai beaucoup voyagé.
My trip to Vietnam.
Et mes visites au Vietnam, au cœur de la guerre, vraiment m'ont ouvert les yeux. Les gens, aujourd'hui, parlent comme si tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui, ça allait bien, globalement, les choses allaient bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce que les États-Unis ont fait bien avant qu'on entende parler de Trump, ce que les États-Unis ont fait au Vietnam, c'était atroce. Et je me souviens à Chicago d'avoir participé à un festival littéraire. Et tous les gens qui montaient sur scène disaient « Mais regardez la torture à Abu Ghraib en Irak. » Et puis quelqu'un a pris la parole et a dit « Les gars, vous parlez de l'Irak, mais moi je suis un ancien marine et j'ai combattu au Vietnam. Et je veux vous dire une chose.
We captured some people, our enemies.
On a fait des prisonniers, nos ennemis.
And we said to them,
et on leur a dit,
where is your main base?
Because we où est votre base principale? Parce qu'on voulait la cibler, la détruire. Les prisonniers vietnamiens n'ont rien dit.
So he said we stripped one of these prisoners.
Alors il a raconté, on en a déshabillé un et on l'a étripé, littéralement.
And then we said to the other prisoner,
et puis on a dit aux autres prisonniers,
that will happen to you.
Voilà ce qui va vous arriver.
Unless you speak and give us
si vous ne nous donnez pas les informations que
he
nous voulons.
The second prisoner didn't either, so
we il a dit le deuxième prisonnier n'a pas parlé non plus, il a été étripé lui aussi, so abandonné, agonisant.
Just went quiet.
Et là, toute la salle dans ce festival s'est tue. Il a dit, ce que font les États-Unis à Abu Ghraib, c'est affreux,
and
mais n'imaginons pas que c'est la première fois.
Et
le fait qu'il l'ait dit, il m'a poussé à aller le voir après. Et il m'a dit, oui, mais vous savez, on a le même âge, ça fait longtemps que ça accourt, ce genre de choses. Bien sûr, Trump, pour moi, est sans doute le pire à cause de ce qu'il dit. Mais ce qu'il fait n'a rien d'original. Il y a quelques jours, il a dit on va bombarder l'Iran et la ramener le pays à l'âge de pierre. Ce sont les mêmes mots qui ont été prononcés par un général américain pendant la guerre du Vietnam. Bombarder les Vietnamiens pour les ramener à l'âge de pierre, les renvoyer à l'âge de pierre.
Mais alors, du coup, Tariq Ali, vous qui êtes là depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui dites, certes, il y a de l'horreur contemporaine, mais il y en a eu avant, la question serait quelle position tenir et comment combattre ? Vous qui racontez ça dans vos mémoires, qu'est-ce qu'il y a comme arme pour défendre la paix, défendre la justice, défendre l'égalité, si l'horreur se répète ?
Eh bien,
ce qui s'est passé depuis ces guerres et ces crimes affreux qui ont été commis depuis aussi au Moyen-Orient, il y a quand même eu des manifestations partout dans le monde. En Grande-Bretagne, par exemple, on a eu déjà 16 ou 17 manifestations au cours des deux dernières années avec plus d'un quart de million de personnes qui participaient parce que les gens sont extrêmement en colère. La situation, c'est que les gens savent, pas seulement ce qui se passe dans les guerres, mais aussi qu'en général, on n'obtiendra rien de ce qu'on souhaite de la part des élites et des dirigeants. Peu importe qui est au gouvernement, que ce soit une élite de centre-gauche, centre-droit ou semi-fasciste, ils ne nous écoutent pas. Et ça crée énormément de colère. Quand on considère la question de la guerre en Europe aujourd'hui, la majorité des gens ordinaires, des habitants des pays européens sont opposés à la guerre contre l'Iran. Ils sont opposés à ce qu'on est en train de faire aux Palestiniens, mais personne ne les écoute. Et puis d'un seul coup, il y a eu ces manifestations aux États-Unis. Pour moi, ce qui m'émeut particulièrement aux États-Unis, ça a été qu'un nombre très important, vraiment des dizaines de milliers de jeunes juifs américains sont descendus dans la rue. Ils sont vraiment nombreux. Et ils ont pris la rue en tant que juifs pour dire qu'il fallait mettre un terme à ça. Il faut dire à Netanyahou d'arrêter. Vous ne ferez pas ça en notre nom. Ils ont occupé Grand Central Station, la gare de Grand Central, et ils ont même dit aux autres manifestants, laissez-nous nous exprimer en notre nom pour que les gens voient ce que nous pensons. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça qui va mettre un terme à l'antisémitisme ordinaire. C'est quand les gens verront des jeunes, voient des jeunes juifs manifester contre Israël.
Peut-être que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, malheureusement. C'est comme ça qu'on peut résister. À ce stade, aucun pays ne s'est encore opposé aux États-Unis, et puis l'Iran le fait. Et les images qu'on voit aujourd'hui de ce qui se passe suite aux bombardements en Iran et les bombardements commis par les Iraniens à Tel Aviv ne sont pas très différents des bombardements qu'on voit à Gaza. Les attaques aériennes ont les mêmes résultats. On détruit des maisons, on détruit des immeubles, on tue des civils. Qu'on le veuille ou non, c'est ça qu'on fait. Et ça, personne d'autre ne peut le faire. Il n'y a qu'un État qui peut le faire. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est manifester autant qu'on peut. Et puis, un des gros avantages qu'on a aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas autrefois, c'est qu'on a Internet et les réseaux. Donc souvent, quand les images vous arrivent, ce n'est pas forcément que des canaux principaux de communication, mais parce qu'un jeune journaliste, un étudiant, est en train de filmer à Tel Aviv, à Téhéran ou à Gaza. On va écouter un nouvel extrait de vos mémoires, Tariq Ali, et on va revenir, puisqu'il est beaucoup question d'amitié, de dialogue, de rencontre. Un dialogue, on est au tout début des années 2000, et la poésie revient au cœur des conversations.
Pendant la semaine où Bagdad est tombé, j'ai appelé Sadi Youssef pour lui proposer que nous nous voyions et, s'il en était d'accord, que nous déjeunions ensemble. Couramment tenu pour l'un des grands poètes arabes de la période moderne, il vivait en exil temporaire à Uxbridge, une banlieue londonienne proche de l'aéroport de Heathrow, bien loin du village d'Aboul Kazib, près de Bassora, où il était né en 1934, et de Bagdad, où il avait passé ses années de formation. J'ai souri en apprenant qu'il habitait à proximité de l'aéroport. Le lendemain, nous nous retrouvions dans les bureaux de la New Left Review à Soho. Il n'y aurait pas un café arabe ou quelque chose du genre ? Si, il y en avait un dans Greek Street. Il était vide, et c'est là que nous avons fini par déjeuner. Youssef a reconnu l'accent algérien du serveur. La musique était forte et nous leur avons demandé de baisser le son. C'était un poème de Nizar Kabani qu'on chantait, m'a-t-il dit. Vous appréciez son œuvre, n'est-ce pas ? En effet, mais le son était quand même trop fort. Nous avons parlé un moment de Kabani et du poète pakistanais Fez, que Youssef avait rencontré à Beyrouth un quart de siècle plus tôt, alors que tous les deux étaient en exil. Il aimait bien Fez et m'a demandé ce qu'il représentait dans la culture pakistanaise. Pour beaucoup de ceux qui, comme moi, ont grandi sous une dictature, ai-je répondu, Fez, c'était la culture pakistanaise. Kabani et Fez étaient morts, mais leur poésie continuait de vivre.
La place que vous faites aux conversations amicales, aux rencontres, Tariq Ali, dans vos mémoires est extrêmement importante, je le disais. Vous notez des souvenirs de vos conversations avec Edouard Saïd. Vous notez, vous vous empressez de noter, une fois qu'il est mort, les souvenirs vivants que vous avez de Malcolm X. Vous parlez de votre rencontre avec Indira Gandhi, etc., etc. Et ici, vous parlez de cette rencontre avec cet homme au tout début des années 2000 et de la place que la poésie tient dans votre conversation. Et on peut pas croire que c'est juste une sorte de vernis intellectuel, Tariq Ali, parce que la poésie revient tout le temps, un petit peu plus tôt. Une femme vous dit... je peux vivre parce que mon frère est Rainer Maria Rilke. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place a votre lecture de la poésie dans ce parcours politique ?
Poetry came to us through the voices.
La poésie of the poets. Nous vient par la bouche du poète, dans ses mots.
From a very young age,
très jeune, j'allais à des lectures de poésie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, c'est lecture à l'époque de l'URSS, elle pouvait rassembler des milliers de personnes. Et au Pakistan, en Inde, c'était des dizaines de milliers de personnes. La plupart ne pouvaient pas lire.
So the poets educated.
À tout le monde, mais beaucoup. Et donc, les poètes venaient les éduquer.
And then we used to have extempore competitions between the poets. They would make up poems on the spot, and the audience would judge
for their applause. Et le public jugeait en applaudissant entre deux poètes qui avaient le mieux fait.
You know, popular or favorite, and I used to love these occasions.
Qui était le plus populaire. J'adorais ces moments.
Apart from anything else, the quality of
parce qu'en dehors de tout le reste, cette qualité justement de la poésie était aussi d'apporter énormément d'éducation et on était tellement habitués à entendre en permanence les poètes que quand on ne les entendait plus, on se disait que quelque chose n'allait pas. Et quand l'armée a pris le pouvoir au Pakistan,
en 1958,
il y avait une lecture de poésie qui était prévue, on y est allé, et un des grands poètes Punjabi, Daman, il est monté sur scène devant un public très important, peut-être 10 000, 15 000 personnes.
And he started reciting poems about birds.
Et il commençait à réciter des poèmes sur les chants d'oiseaux, le rossignol, les fleurs de printemps. Il s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? On vient d'avoir un coup d'état militaire. Et donc on était un groupe d'étudiants à l'université à l'époque. Et on lui a crié en Punjabi, mais dites quelque chose, enfin, réagissez.
Donc beaucoup de gens ont dit, oui, dites quelque chose.
Et beaucoup de personnes nous ont emboîté le pas. Et ce poète a inventé immédiatement un poème de deux vers, qui, en langue punjabi, disait ça ne rime pas en anglais, mais ma traduction serait à présent,
and balmy.
Chaque jour
wherever
est
you
doux
look, it's
et chaud.
The army.
Partout où l'on regarde,
and
c'est l'armée qui est là.
That same night, the cops came and took him away and locked him up.
Le soir même, la police est venue l'arrêter.
They didn't torture him.
Ils l'ont enfermé deux jours, ils ne l'ont pas torturé, mais ils ont dit, la prochaine fois que vous récitez ce genre de poème, on s'occupe de vous. Et on était dans un des grands cafés politiques de Lahore, il est venu nous voir et il m'a dit, la prochaine fois que vous me dites de réagir, venez sur scène vous-même. Dites-le vous-même. Et on l'a fait. On a
mais
compris.
Finalement, Tariq Ali, vous avez dit à John Lennon, viens, viens chanter une chanson. Et il a écrit cette chanson, Power to the People. Vous avez dit à ce poète, say something, dis quelque chose de la situation. Et il a composé un poème. À la question que je disais tout à l'heure, que je vous posais tout à l'heure, c'est-à-dire comment résister? Comment continuer le combat pour la paix, pour la justice, pour l'égalité? Est-ce que votre réponse n'est pas say something? Dis quelque chose.
Well, I mean, the resistance we have.
Eh bien, la résistance que nous pouvons avoir, qu'est-ce que c'est? Nos stylos, notre voix, nos livres, nos mots.
You know, that is the way we resist.
C'est comme ça qu'on résiste. Et plus on est nombreux, mieux ce sera. Mais j'ai remarqué dans tous les pays européens, en tout cas tous les principaux pays européens, à l'exception de l'Espagne,
That there are attempts being made to stop people speaking.
Qu'on a tendance à empêcher les gens de parler.
To stop people saying what they
wish to say. On a tendance à empêcher les gens de dire ce qu'ils voudraient dire. Une tendance à la persécution ou au harcèlement.
In Britain, a completely
en Grande-Bretagne,
non-violent movement.
Un mouvement entièrement non-violent pour la Palestine qui se contente de cibler les vendeurs d'armes de façon pacifique, pas par des moyens violents. C'est tout ce qu'ils font et ils ont été déclarés terroristes, organisations terroristes. Deux tribunaux les ont innocentés. Mais le gouvernement continue à les poursuivre. Et ça va aller devant un troisième tribunal en Angleterre. Et puis il y a un cas très connu d'une membre de la Commission européenne qui est également ciblée pour des raisons injustifiées. Une élue au Parlement européen qui est ciblée ici en France pour, sans doute pour la seule raison qu'elle est palestinienne. Quant au témoignage qu'on a de l'Allemagne sur la situation des militants, c'est terrible. Donc je crois que la différence entre les guerres précédentes et celles qui a lieu aujourd'hui, ces guerres interminables au Moyen-Orient, c'est que ça affecte aussi le fonctionnement de la démocratie en Occident, en Europe et aux États-Unis.
Et c'est probablement pour ça que vos mémoires se terminent justement sur la possibilité des désaccords et la manière dont ils, ces désaccords, quand ils sont exprimés, peuvent briser tous les planchers. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme tous les mardis, toutes les semaines, voici le moment de nous intéresser à la littérature jeunesse. C'est avec vous, Raphaël Bott. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Mercredi dernier, on était le 1er avril, c'était le jour des blagues. Dans la presse, la tradition est d'inventer un scoop en essayant d'être le plus crédible possible. Et du coup, du côté de la presse jeunesse, Pirou a tenté quelque chose.
C'est Vivien Demeyer, le réalisateur du Book Club, qui m'a mis sous le nez ce petit poisson. Je me suis d'abord fait avoir, exclu la première série réalisée par l'IA. L'indication en couverture m'a intriguée. Cet hebdomadaire, Spirou, incarne l'histoire de la BD franco-belge. Il a été créé en 1938 par Jean Dupuis. Franquin, Jigé, Robat, Maurice, Payot en ont noirci et colorié des pages et des pages. Et là, dans ce numéro du 1er avril 2026, une nouvelle série, Prisme, raconte l'histoire de Carmina, jeune héroïne qui, ayant éteint ses 14 ans, qui arrive dans la cité de Cromalie après 10 jours de marche éprouvant, accompagnée d'un perroquet bavard pour enfin connaître la couleur qui lui est attribuée. Alors c'est une quête initiatique, il y a un peu d'humour. Ce début de scénario est un peu crédible, mais pas vraiment. On avance de case en case, mais ce n'est pas passionnant. On se dit que ce n'est pas très fin, Cromalie, cette Carmina. Et puis, pas très original, pas très beau non plus.
Donc, l'intention, c'est de prouver les limites d'une intelligence artificielle, c'est ça, Raphaël ?
Bah exactement, on est dans le poisson d'avril didactique, on va dire. Mais la démarche pose quand même bien la situation et la problématique en jeu. Après cet épisode, signé donc d'une dénommée Linda, intelligence narratrice et dessinatrice, le lecteur découvre le making-of du calinar, donc du canular, pardon. Et donc, un vrai scénariste, Olivier Bocquet, et un vrai dessinateur, Noé Monin, ont écrit et dessiné une BD à la manière d'une IA, pourrait-on résumer. Leur but était d'être suffisamment crédible pour être publiable et suffisamment subtil pour que l'on trouve cela un peu fade, voire maladroit, voire carrément nul. Le décryptage se révèle intéressant puisqu'il se transforme presque en une réflexion sur la création d'une vraie BD. Les deux auteurs nous pointent les faux raccords, les erreurs, les incohérences, les clichés par exemple. Pour montrer un personnage qui écoute, on dessine forcément une oreille en très gros. Ou encore la façon dont les informations arrivent dans un dialogue.
Le Poisson d'Avril se transforme donc en manifeste, si j'ai bien compris, pour défendre la création et le travail des auteurs et des autrices.
C'est complètement ça, et cela me semble plutôt pertinent de sensibiliser une génération qui grandit avec cette abyssale technologie. Pour ma part, je me suis quand même posé deux questions auxquelles j'ai pas vraiment de réponse. Je me suis d'abord demandé ce qu'un enfant d'une dizaine d'années pouvait se dire en lisant exclut la première série réalisée par une IA sur la couverture de son journal. Peut-être que pour lui, c'est moderne. En gros, peut-être qu'il va être déçu en comprenant que c'est un Poisson d'Avril. Ensuite, je me suis demandé si le débat engendré était vraiment nouveau, parce qu'en lisant le prompt, donc le prompt, ce sont les éléments donnés à une intelligence artificielle pour exécuter une tâche, et bien là, il était donné générer un gag drôle, écrire un nouveau classique bankable, adapter avec un style manga à succès, pimper votre second rôle. En fait, ça correspond à des publications qui existent et qui obéissent à certaines règles marketing. Donc on en arrive un peu à une question, est-ce que ce scénario et ce dessin auraient été réellement pondus par une vraie IA? Est-ce que ça ferait la même démonstration? Est-ce que ça serait possible?
Donc vous insinuez que si ça se trouve, ça aurait été pas mal cette BD générée par IA.
Bon allez, j'en sais rien Marie, j'ai pas vraiment envie de vérifier, mais quand même je ne crois pas. Mais je voulais quand même profiter de ce Poisson d'Avril pour lancer la réflexion avec des jeunes ados, de se demander ce que attendre d'une bande dessinée, de ce que signifiait pour eux la création. Et puis pour alimenter tout ça, je vais ajouter une fiction. Après tout, c'est une critique de littérature, une chronique de littérature jeunesse. Et j'ai repensé à un livre sorti à l'automne. Il s'intitule « Célèbre à en mourir ». L'histoire se passe en 2038, dans un monde où chacun vit avec des zénuvies, des entités numériques vivantes. Et ce roman de science-fiction décale un peu notre réalité et les IA ont des qualités émotionnelles. Un jour, tout dérape. Le visage de l'héroïne de ce roman, Laura, apparaît sur tous les écrans du monde. Une énuvie a pris le pouvoir. Donc il n'y a pas vraiment de discours moral dans ce roman, mais l'auteur, qui est en chair et en os, pousse vraiment tous les curseurs de cette intrigue. La situation de départ est vertigineuse. Elle embrasse, au-delà de la création, de toutes ces questions autour de la création, la définition même de notre humanité. Et très vite, on ne sait plus du tout qui manipule qui, et c'est très bien ficelé.
On commence donc par un Poisson d'Avril et on finit avec un roman d'anticipation. Spirou est encore en kiosque aujourd'hui, Raphaël Bott. Célèbre à en mourir que vous venez d'évoquer d'Alain Gagnol est publié chez Syros. Il est lisible à partir de 12 ans, vous dites environ, et toutes les informations sont à retrouver sur le site franceculture.fr, le Book Club. Lecture jeunesse, à la semaine prochaine. Merci Raphaël. On peut lire vos mémoires, Tariq Ali, On ne peut pas plaire à tout le monde, édité et traduit de l'anglais par Diane Meur, pour découvrir une des anecdotes, notamment liées à cette chanson Street Fighting Man de Mick Jagger, qui vous faisait écrire en une d'une revue Mick Jagger et Friedrich Engels sur le combat de rue. Merci beaucoup, Tariq Ali, d'avoir été avec nous pour évoquer ces mémoires publiées chez Sabine Vespizer, éditeur, et merci à vous, Marguerite Capelle, pour l'interprétariat vers le français. Au son, c'était Ludovic Auger, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement à Julie Gastal aujourd'hui. Pour poursuivre la conversation, rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Leibegovitch.